tous, vous êtes bien sûr Campus FM 94 MHz. Vous êtes ce soir donc sur l'émission mensuelle qui s'appelle La Fabrique d'un autre monde possible, donc en coopération Campus avec Attaque Toulouse. Donc avec moi ce soir, il y a Majid, comme d'habitude, qui nous fait le micro, qui nous fait la technique, qui interviendra pour poser des questions, intervient aussi également hein, sur le sujet en particulier de l'Europe dont on va parler ce soir. Alors ce soir, le sujet de l'émission en particulier, c'est, on l'a intitulé « L'Europe, quelle convergence des mouvements sociaux ?». Vous savez qu'on a fait une émission le mois dernier sur la dette, on en a fait une sur le traité constitutionnel de stabilité et de convergence le mois d'avant. Et donc ce mois-ci, on a décidé de parler d'Europe. Et ça paraît bien ambitieux, bien compliqué. Et l'idée de l'heure qu'on va passer ensemble ce soir, c'est d'expliquer pourquoi on doit travailler au niveau européen pour les mouvements sociaux. Donc... ce soir avec moi, pour nous aider à faire ça, il y a Geneviève Azam qui est là, qui est économiste, qui est agrégée en sciences sociales, enseignante chercheuse à l'université Toulouse 2. Dont je me souviens une forte participation de Geneviève à la fondation d'Attaque Toulouse il y a quelques années. Tu es membre du CA d'Attaque France et présidente adjointe, enfin oui, vice-présidente du conseil scientifique également. Donc bonsoir Geneviève, bienvenue.
Bonsoir.
Et on notera aussi quelques publications. En 2007, je crois que tu avais publié un ouvrage qui s'appelait « Construire un monde écologique et solidaire,
oui.
Économie politique ». En 2010, « Le temps du monde fini vers l'après-capitalisme oui. », qui était un autre ouvrage chez Les Liens qui libèrent, et également chez le même éditeur en 2012, « La nature n'a pas de prix, les méprises de l'économie verte ». Bien, avant d'attaquer le sujet de fond de ce soir, quelques brefs quand même, pour rappeler qu'il y a deux gros sujets d'actualité en ce moment, qui sont le combat contre l'austérité. Hein, le pacte budgétaire a donc été ratifié, ce qui porte à, je crois, plus de 12 aujourd'hui le nombre de pays l'ayant ratifié. Et donc, d'après les textes officiels, le pacte sera applicable au 1er janvier 2013. Donc malgré ça, la lutte ne s'arrête pas pour autant. Ça veut dire que, y a, compte tenu des enjeux et des risques que comporte ce pacte, il n'est pas sûr que finalement qu'il soit réellement mis en œuvre, comme bon nombre d'accords européens qui ne sont pas appliqués en totalité. Donc là, c'est de mettre la pression, donc avec les mouvements sociaux avec lesquels on travaille, syndicats et partis politiques, pour faire en sorte que ce pacte-là ne soit pas appliqué en l'état et qu'il laisse de l'air aux pays pour mener à bien les développements dont ils auront besoin. Tu veux dire un mot sur ce point-là, Geneviève ?
Oui, ce que je voudrais dire, c'est que ratifier ou pas, l'austérité est de toute façon l'horizon hein, qui a été de fait accepté en France hein, par le gouvernement, ce qui vient de sortir au niveau du choc de compétitivité, même si ça ne s'inscrit pas dans un traité européen, entérine de fait l'austérité. Donc... le processus est très largement en marche. Alors ce que pourra faire ce texte-là européen, une fois qu'il sera vraiment ratifié, c'est donner une légitimité politique plus grande. Mais l'austérité n'a pas attendu ce pacte pour vraiment se mettre en marche.
Voilà. Donc il y a des activités prévues en novembre. On verra ça à l'agenda militant à la fin de l'émission. Mais il y a énormément d'actions prévues hein, pour contrer la mise en œuvre de ces plans-là. Le deuxième sujet dont je voulais parler en introduction, c'était Notre-Dame-des-Landes, un grand projet inutile et imposé s'il en est. Et également, on sent qu'il y a un frémissement extrêmement important. C'est plus qu'un frémissement, hein. C'est une lutte en ce moment qui prend des ampleurs par le rassemblement de différents mouvements au même endroit à Notre-Dame-des-Landes, hein, dans un spectre politique qui va de l'extrême gauche et des mouvements presque anarchistes jusqu'au centre où Europe Écologie Les Verts fait partie des mouvements qui luttent contre Notre-Dame-des-Landes.
Oui, une partie du MoDem aussi.
Une partie du MoDem également. Donc on a une convergence importante là des mouvements qui font penser qu'il y a peut-être une chance de gagner. Et donc il y a des collectifs là qui se montent un petit peu dans toutes les villes en France pour envoyer des bus et des gens là-bas. On y reviendra.
Okay, je vais
à la fin dans l'agenda militant, okay, on en parlera pour le vendredi et samedi prochain.
Notre-Dame-des-Landes, très bien.
Voilà. Donc ça c'était deux points importants dans les brèves. Et puis on va attaquer maintenant le cœur de notre sujet de ce soir.
Mais je pense, si je peux me permettre, Notre-Dame-des-Landes n'est pas découplée de l'Europe. Hein, d'ailleurs souvent ça me fait penser à notre aéroport qui a été financé sur des fonds européens en Espagne. Qui est une espèce d'immense aéroport hein, financé encore une fois avec des fonds européens et là on n'était pas regardant hein, du tout. C'est un aéroport qui n'ouvrira jamais, qui est construit, c'est un aéroport fantôme Et on peut penser que Notre-Dame-des-Landes a quelque chance, si cette folie-là l'emportait, de devenir un jour un aéroport fantôme aussi.
Ah oui, c'est...
Dans la situation dans laquelle nous sommes, parce qu'il y a un entêtement totalement irrationnel par rapport à la construction de cet aéroport, y compris au sein du PS, des hauts fonctionnaires sont opposés et pensent que c'est une aberration économique. Alors je ne parle même pas de l'aberration écologique, de l'aberration humaine, mais c'est une aberration économique. Bon.
Bien. Rien de plus donc pour aller à Notre-Dame-des-Landes le week-end. Alors, pour en venir à notre question de ce soir, l'Europe, quelle convergence des mouvements sociaux, quel projet pour quelle reconstruction? En introduction, je comptais parler du contexte, c'est-à-dire pourquoi parler d'Europe aujourd'hui, pourquoi cette échelle européenne est-elle pertinente pour envisager un combat spécifique sur ces problématiques de crise d'austérité. On sait que la crise aujourd'hui européenne découle de la crise globale qui a eu lieu les années précédentes et qui, elle-même, a pour origine la crise des subprimes aux États-Unis en 2008. On sait qu'aujourd'hui, plusieurs États en Europe, notamment les États du sud de l'Europe, sont en grande, voire très grande difficulté, comme la Grèce, le Portugal, mais aussi l'Espagne et dans une certaine mesure l'Italie. Et puis peut-être bientôt en France, hein, parce qu'en effet, on en parle de l'austérité. Et donc pour certains, la situation est réellement catastrophique aujourd'hui. Donc on sait aussi que malgré le fait que dans chacun de ces pays, finalement, la situation actuelle, cette situation intervient après la crise financière 2008-2009, et qui soit, d'après les tenants, on va dire, du discours officiel, cette crise est liée à l'endettement, à un trop fort endettement public, ce qu'on peut dire quand même, c'est que la situation de ces pays diffère, parce que les types d'endettement ne sont pas exactement les mêmes, parce que les caractéristiques de leurs économies respectives sont aussi un peu différentes. Ils ont des capacités et puis des moyens à leur disposition de réagir face à cette crise qui sont également propres à chacun en partie. Enfin, on observe que dans d'autres pays comme les pays de l'Europe du Nord, la situation est largement différente. Aujourd'hui, ils sont plutôt observateurs des problèmes dans les pays du Sud. Donc il n'y a pas une communalité au niveau européen des problèmes aujourd'hui, au jour le jour, ressentis par les populations. Ça, c'était un point pour dire que entre les différents pays en Europe, il y a des situations relativement différentes. Ce qu'il faut dire, c'est que la situation actuelle met en jeu des mécanismes économiques mondiaux, l'économie d'Amérique du Nord, l'économie européenne, on l'a dit, mais aussi les économies du Golfe et asiatique par leur implication importante dans les marchés financiers. Donc finalement, ces mécanismes économiques, ils sont mondiaux, et on peut dire que l'échelle nationale n'est pas pertinente pour répondre à ces mécanismes-là. Ce qu'il faut dire également, c'est que les mécanismes politiques, de Maastricht au pacte budgétaire, on va dire, qui est à mettre en œuvre pour corriger finalement les effets de ces mécanismes économiques, se trouvent aujourd'hui tous au niveau européen, enfin la plupart. Un point que je n'ai pas mentionné, c'est que je crois que la zone euro, c'est l'une des trois premières économies mondiales. Donc ces différents paramètres font que, malgré les différences entre les pays, l'échelle européenne est effectivement pertinente et probablement la seule sur laquelle il faut agir. Je sais pas, Geneviève, tu veux ajouter quelque chose sur ça, parce que...
Je pense que la question de l'échelle est une question absolument centrale. Si on veut engager, nous voulons engager une transition qu'on dit écologique ou sociale et sociale, on doit trouver les échelles de la transition.
Tout à fait.
Et ce n'est pas simple. Parce que se poser la question des échelles, c'est se poser la question du politique. C'est-à-dire où, réellement, nous pensons que les décisions doivent être prises et où peuvent-elles être prises. Même s'il y a des différences importantes entre les pays européens, d'histoire, de culture, de tradition, etc., et donc d'économie, il y a, en revanche, face à la crise, des problèmes absolument communs. Tu as évoqué la zone euro. Hein, donc ce sont des pays qui sont, même s'ils sont différents, et ça a été d'ailleurs, c'est une des raisons des problèmes de la zone euro, mais malgré tout, ils sont engagés dans un système monétaire qui est commun. Et la crise, non seulement dans ses effets, mais aussi dans ses causes, elle n'a pas une dimension nationale. Elle a immédiatement une dimension, je ne dirais pas européenne, internationale. Bon, je prends par exemple la crise financière. C'est bien évident que c'est par des régulations aussi bien internationales que pour nous au niveau européen qu'on pourra véritablement mettre au pas la finance. Alors, en même temps que je dis cela, je précise que ça ne dédouane pas l'échelle nationale. Parce que bien souvent, les gouvernements, depuis très très longtemps, ont tendance à s'abriter derrière Bruxelles en disant « Ah, on ne peut rien faire parce que ça ne peut se faire qu'à Bruxelles. » Ou bien « Bruxelles nous impose ci, nous impose là. » Non. Malgré tout, actuellement, les États au sein de l'Union européenne, d'ailleurs les plus fédéralistes le regrettent, ce sont les États aujourd'hui au niveau de l'Union européenne qui continuent à avoir le pouvoir. Alors, ils ne peuvent pas s'abriter derrière ces Bruxelles qui nous imposent. C'est la démission politique des États qui pose problème. Hein. Donc moi, je ne sous-estime pas non plus l'échelle nationale et de la même façon l'échelle locale, l'échelle régionale, l'échelle locale. Hein, je crois qu'on est dans un tel, comment dire, dans un tel effondrement, je pense, et en particulier au niveau européen, hein, qu'il n'y a pas, il y a des échelles à privilégier, bien sûr, l'échelle européenne, mais elle n'a de sens, l'échelle européenne, que si en même temps il y a des sous-échelles, parce que sinon nous arriverions à un système que nous dénonçons par ailleurs, ultra-centralisé, d'une Europe verticale qui prendrait les décisions pour tout le monde. Hein, donc, c'est un jeu de poupées russes, un petit peu, hein, l'échelle. Bon, je prends par exemple ce sur quoi je travaille le plus, tous les déséquilibres écologiques, la question énergétique par exemple. Bien entendu qu'il faut des expériences locales, il faut des transitions locales, rapides, urgentes, sans attendre, bon, régionales, au niveau de villes, je pense aux villes en transition, des choses comme ça. Mais malgré tout, là, vu l'ampleur de la chose, nous avons besoin d'une réglementation européenne. Elle ne serait-ce que pour éviter la concurrence que pourraient se faire les États en l'absence de cette... concernant l'énergie, concernant le transport de l'énergie, nous avons besoin d'une réglementation européenne, d'un système énergétique européen. Et quand je dis ça, je n'envisage pas du tout, pour ma part, certains le font, je n'envisage pas un système ultra-centralisé à Bruxelles, hein. Il ne s'agit pas de créer, pour moi, ce monstre de plus. Hein. Simplement, les initiatives locales, elles ne peuvent vraiment, de mon point de vue, s'amplifier et se pérenniser qu'à l'intérieur d'un cadre plus global, hein, de réglementation. Et pour nous, c'est effectivement l'Union européenne. Mmh. Bon, c'est la question du climat, par exemple, et la présence de l'Europe, parce que je tique souvent quand même quand on parle uniquement de l'Europe par rapport à elle-même. L'Europe que nous voulons, c'est l'Europe par rapport au reste du monde. N'oublions pas ce que nous avons été. Notre histoire, notre puissance, elle s'est faite par la conquête du monde. Ce temps-là est terminé. Si nous voulons comprendre la crise que nous vivons, nous devons comprendre que ce temps-là est terminé, que le centre de gravité du monde s'est déplacé. Et donc c'est bien l'Europe par rapport au monde aussi. Et la crise que nous avons en Europe, c'est une crise géopolitique. C'est-à-dire que nous sommes nostalgiques d'une puissance perdue que nous ne retrouverons pas, ni avec les chocs de compétitivité, ni avec les chocs de croissance, ni nous ne retrouverons pas cette croissance perdue, parce que ce n'est pas possible, y compris matériellement possible.
Tu as parlé de géopolitique, mais il y a aussi, est-ce que ça se différencie ou pas ? Enfin, comment ça s'intègre avec la problématique de la finance ? On a parlé à une époque de la taxe Tobin, etc., au moment de la création d'ATTAC. Et on disait, de mémoire, que la zone euro était probablement l'échelle pertinente pour une réglementation face à la finance mondiale, finalement. Tu confirmes que c'est aussi du point de vue de la finance spécifiquement à l'intérieur. Bon, c'est vrai qu'il y a un problème géopolitique global, mais à l'intérieur, il y a aussi des problématiques spécifiques de prédominance de la puissance de la finance et de la mise sous tutelle des États, probablement, et que dans cet axe-là, il y a aussi une échelle européenne qui est également l'échelle pertinente.
Bien sûr. D'ailleurs, toutes les réglementations aujourd'hui des banques, bon, qu'on appelle les réglementations de Bâle, réglementation européenne. Il y a le problème majeur de la Banque Centrale Européenne, qui doit absolument être prise à bras le corps de manière à transformer ce qu'est cette Banque Centrale Européenne. Donc ça, c'est véritablement une question européenne. Je voulais parler aussi, j'aurais pu parler des paradis fiscaux. Hein, les paradis fiscaux, nous en avons en Europe d'ailleurs. Hein, bon, donc les paradis fiscaux, la lutte contre les paradis fiscaux ne peut se faire qu'à un niveau global et en particulier européen. Etc., etc. Donc ça, c'est certain que... Alors, l'idée de la taxe Tobin, bon, bien sûr que l'idéal serait une taxe Tobin internationale. Quand nous disons l'Union européenne peut être un espace pertinent, bon, c'est faute de mieux, hein, aussi. Nous souhaitons une taxe Tobin qui puisse être internationale, mais elle peut démarrer, effectivement, au niveau de l'Union européenne, d'autant que un nombre très, très, très important de transactions passe par les banques européennes, qui ne sont pas quand même les dernières de la classe. Donc nous avons aussi Londres, mais ils ne sont pas d'accord avec la taxe sur les transactions financières. La City de Londres, qui est aussi un grand paradis fiscal quand même, la City de Londres, eh bien, c'est un grand lieu de Francfort, la bourse de Francfort, sont des lieux de transactions financières extrêmement importants. Ouais. Donc ça aurait un sens, vraiment.
Moi j'ai une question en fait par rapport justement à cette logique géopolitique. Entre justement les pays du Nord et les pays du Sud de l'Europe, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas aussi un risque de clivage entre justement ces pays maintenant comme l'Allemagne et l'Angleterre et les pays du Sud, donc de l'Europe, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, le Portugal?
Si. On va peut-être y venir dans le chapitre suivant. On va parler des convergences au niveau européen sur les différences entre les pays et comment des pays avancent à vitesse différente parce qu'ils ont des ils sont confrontés à la crise de façon, dans des intensités évidemment différentes. Hein. Donc,
ouais.
Moi, je pense qu'on pourrait peut-être faire une pause musicale maintenant.
Donc, pour enchaîner, on va écouter The Movement. C'est un titre de Youngblood Brass Band. Et c'est parce qu'on est dans une logique de mouvement à travers cette émission et cette discussion. On revient tout après ça. Il est 17h20 sur Campus FM.
Thank you. strong with simile song. Your songs sound off. We're writing history where an evil eventually lost, and still writing bad checks for what freedom's memory cost. Calling it a good war like we should be sentimentally soft. Naked emperor's decree, you turn the other cheek and essentially cough. Lonely brides crying crystal tears over open veins. Hope remains toxic. We're dying for a reason for dying, for rhyming. Go against the grain of greed and all soul sorcery. We fell off the orphan tree disorderly. Them seeing the fruits of slave labor are soon to see the orchard bleed. I can't get it out fast enough, but I can afford to eat. Last week I must have ingested like 40 feet. But we'll get it right and they'll hear it. And they'll pay and pay and pay till it sounds like a movement again.
The moment's gotta start with you. There's a spark in you.
Get up, get up, get up, get up, get up.
The moment's gotta start with you. There's a spark in you.
Bonsoir à tous, donc vous êtes toujours sur Campus FM 94 avec Attaque Toulouse ce soir au micro en partenariat avec Campus dans l'émission La Fabrique d'un autre monde possible. Et ce soir le sujet c'est l'Europe, quelle convergence des mouvements sociaux pour quel projet et quelle reconstruction. Donc on vient de parler là un bon quart d'heure sur le contexte européen, sur pourquoi l'échelle européenne est pertinente. Et maintenant on voudrait embrayer sur l'aspect convergence au niveau local, mais aussi au niveau national et européen, des mouvements, des actions pour avoir des, comment dire, des réalisations au niveau européen qui nous permettent de changer un petit peu le... Donc dans cette voie-là, nécessité de convergence au niveau local, national, européen, trois constats finalement on peut dire pilotent nos actions. Aujourd'hui on se rend compte qu'il y a urgence, parce qu'on voit la Grèce, on voit le Portugal. Donc il y a la nécessité d'apporter des réponses à très court terme pour ces pays-là. Ça signifie finalement de répondre aux besoins des populations dans ces pays-là à court terme, pour leurs économies, pour les problèmes politiques du moment. Mais aussi, il ne faut pas oublier le court et le moyen terme qui va conditionner finalement ce que sera l'Europe de demain. Donc il y a deux choses à articuler l'une avec l'autre. Geneviève, tu as des commentaires sur cet aspect particulier de l'urgence d'un côté, parce qu'il y a des peuples qui souffrent vraiment. Peut-être que ça va être chez nous demain, hein, dans peu de temps. Et en même temps, la nécessité de ne pas oublier le long terme et de ne pas oublier finalement l'organisation politique à moyen terme avec les partenaires et avec l'architecture politique qu'on a au niveau national et européen aussi.
Je suis tout à fait d'accord sur l'urgence. Hein. Il y a une urgence sociale, il y a une urgence écologique, il y a une urgence démocratique. Donc, la question de quel rapport de force, parce que parler de convergence des mouvements, c'est pour arriver à créer un rapport de force. Et donc, où est le pouvoir? Où sont les pouvoirs? La question, c'est d'identifier aussi les endroits à partir desquels on peut construire des convergences, parce qu'on ne peut pas construire des convergences de mouvements à partir d'une idée abstraite. Hein, c'est bien à partir de choses qui sont extrêmement concrètes qu'on peut le faire, sinon ce n'est pas pensable. Donc, je pense qu'il faut se garder de discours abstraits sur l'Europe. L'Europe, elle est justement beaucoup trop abstraite. Il y a des lieux de pouvoir, il y a des lieux et donc des lieux de résistance possibles qui sont à identifier dans des coalitions les plus larges possibles. Je prends un exemple. Hein. Attaque était très partie prenante, mais ce n'est pas la seule raison. Nous aurions pu ne pas y être éventuellement. Mais il y a une grande manifestation européenne qu'il y a eu à la Banque centrale de Francfort il y a à peu près 3 mois, qui était organisée par des mouvements allemands, alors les réseaux d'attaque Europe étaient présents aussi. Il s'est agi là de trouver, il y avait quand même 10 000 personnes, il s'est agi là de trouver une cible claire qui parle aux personnes, d'identifier d'où vient le problème. Parce que si nous restons dans l'abstraction d'un traité, d'une Europe, de... bon, ça ne peut pas, ça ne parle pas à tous ceux qui aujourd'hui vivent des situations qui sont extrêmement compliquées. Il y a des campagnes sur les banques. Bon, par exemple, à Attaque, nous sommes en train d'organiser, de tenter d'organiser ce que nous appelons un tribunal des banques au niveau européen. C'est-à-dire de trouver des lieux au niveau européen, dans chaque pays, dans lesquels nous pourrons porter des doléances par rapport aux banques, par rapport aux méfaits des banques aujourd'hui, aussi bien au niveau social qu'au niveau politique. C'est le problème de ce qu'on appelle des convergences. Si on veut les faire vivre vraiment, il faut partir des questions concrètes et quotidiennes que se pose la question, en tentant de trouver non pas un espèce de monstre en face à partir duquel on ne sait pas où le prendre, mais trouver des symboles du pouvoir très forts, des lieux de pouvoir, et cela, on y va, on occupe, hein, et on résiste par rapport à ces lieux. C'est pour ça que la lutte de Notre-Dame-des-Landes est importante, parce qu'elle fait converger justement, mais parce qu'il y a tout à coup quelque chose qui est identifié. Nous mourons de rester dans des abstractions sur l'Europe libérale, d'accord, mais c'est quoi concrètement l'Europe libérale? La finance internationale, c'est quoi la finance internationale? Dans notre vie, ça veut dire quoi? Et à partir d'où nous pouvons faire bouger? Que devons-nous dire et où nous portons nos luttes? Et là, je pense qu'on crée des convergences comme ça. Sinon, dans l'abstraction, on peut se mettre autour d'une table entre organisations politiques, organisations syndicales, mouvements sociaux. Ça se fait depuis 20 ans et il n'y a pas de convergence. Donc,
on voit aujourd'hui qu'il y a actuellement des mobilisations très importantes dans certains pays. Je notais hier qu'il y avait, je crois qu'en Grèce, ils en sont à leur 17e grève générale. Au Portugal aussi, il y a de nombreux mouvements. En Espagne, pareil. Donc on sent qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se crée dans ces pays-là et au niveau national, avec une tendance dans chacun de ces pays-là à avoir des mouvements unifiés, de plus en plus. Ce n'était pas le cas au début, ce n'est pas encore totalement le cas, mais ça commence à devenir un petit peu, à prendre corps, disons. Il y a aussi des caractéristiques communes entre les différents pays où les actions sont en cours. C'est l'implication de mouvements, on va dire, non affiliés, tels Occupy, tels les Indignés, etc. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les mouvements structurés et officiels reconnus qui sont actifs. Mais il y a aussi des spécificités notables entre ces pays, du fait de l'histoire de leurs mouvements sociaux, de leur organisation propre également, et des relations qu'ils ont entre eux, qu'ils ont pu ou pas nouer jusqu'à présent. Donc tout ça, c'est au niveau local, comme Notre-Dame-des-Landes, comme on voit en Grèce ou au Portugal. C'est parfois au niveau national, dans certains cas, c'est rarement. Je pense que c'est le cas en Grèce, par contre, au niveau national, ils sont déjà relativement... par contre, comme on le disait tout à l'heure, c'est probablement insuffisant pour avoir un levier suffisamment puissant face au texte européen, face aux puissances de la finance et face au point où sont les lieux de pouvoir. C'est-à-dire que l'échelle nationale ne va pas être suffisante, donc c'est bien l'échelle européenne dont on parlait tout à l'heure qui doit compléter l'ensemble de ces actions-là. Alors, j'ai lu quelque part que la CES, pour la première fois, je crois que de son histoire, il me semble, j'ai pas trouvé de contre-exemple, était contre un traité européen et avait appelé à la grève du 14 novembre. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un précédent. Est-ce que c'est un point important à ton sens?
Oui, c'est bien sûr. C'est un point important qui, comment dire, qui est tout à fait révélateur du fait que aujourd'hui, face à l'austérité, il y a quand même, non pas encore des convergences à mon avis, mais des forces dans dans toutes les sociétés qui, si elles ne convergent pas, s'affrontent à l'austérité. Je voudrais donner une information que j'ai eue par un ami portugais. Il y a deux ou trois jours à Lisbonne, une manifestation de militaires. Quand il m'a dit ça, je pensais que c'était parce qu'il peut-être il n'était plus payé ou des choses comme ça. Pas du tout. Ils ont manifesté pour dire que jamais ils ne tireraient sur la foule.
Wow.
Et ça, c'est extrêmement intéressant. Il y a Madame Merkel qui est ces jours-ci, aujourd'hui ou demain, je ne sais plus.
C'est fabuleux, ça, donc.
À Lisbonne, qui est devenue une ville absolument, d'après ce qu'on me raconte, du fait de l'arrivée de Madame Merkel, qui n'est pas une odeur de sainteté au Portugal, après ce qu'elle a dit de ce n'est pas une star nationale, eh bien, la ville de Lisbonne a été vraiment transformée en champ de guerre, quasiment, pour assurer la présence de Madame Merkel. Donc, Donc je pense qu'il y a quand même dans les sous-bassements profonds de la société, il se passe quelque chose, bien entendu. Et le slogan des indignés des Occupy, nous sommes 99%, c'est juste, même si dans les 99%, il y a des divergences, mais malgré tout, nous affrontons aujourd'hui quand même à une minorité de prédateurs qui sont en train de véritablement mettre le monde à feu et à sang.
J'ai une question de la convergence en fait des idées. Est-ce que c'est pas tout simplement l'action ? L'action, notamment par la désobéissance civile. Et je sais que cette expression, ce terme ne satisfait pas tout le monde. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce que c'est pas seulement ça la solution ? Parce qu'à Notre-Dame-des-Landes, en ce moment, ce qui s'y passe, c'est ni plus ni moins que la désobéissance civile. Donc, est-ce que la convergence des idées, au bout d'un moment, c'est pas aussi la confrontation avec la répression, les forces de l'ordre et tout ce système établi ?
Alors la force des mouvements, de mon point de vue, la force des mouvements indignés ou Occupy, etc., c'est qu'ils sont traversés par toute une philosophie non violente. Et je pense qu'ils ont raison. Ils ne sont pas là pour rechercher, comme ça a pu se passer à d'autres périodes de l'histoire ou d'autres groupes, ils ne sont pas là pour rechercher l'affrontement avec la police. C'est la police qui vient les déloger, ils ne sont pas allés les chercher. Et ça, je pense que c'est à maintenir. C'est à maintenir parce que c'est la garantie d'une extension possible du mouvement. Parce que bien souvent, dans la confrontation physique violente avec la police ou enfin avec l'État en général, ça engendre des mouvements très minoritaires, radicaux, très radicaux, avant-gardistes et très minoritaires, qui ne peuvent plus avoir force vraiment d'explications et de propositions. Non, la force de ces mouvements, les indignés espagnols ont été quand même assez extraordinaires, c'est que c'était justement non-violent. Alors pas non-violent passif, évidemment, mais le but n'est pas la violence et l'affrontement avec le pouvoir. La violence n'est jamais qu'un moyen éventuel. Donc ça me paraît la force de ces nouveaux mouvements, justement. Et ça rompt avec toute une idéologie passée, je dirais, de la prise du pouvoir par la force, de l'exaltation de la violence, de la violence qui devient presque une finalité, qui n'est plus un moyen, mais qui devient une finalité. Bon, ça, c'est la force de ces mouvements, et ce qui, moi, personnellement, me donne espoir et fait que des couches inattendues de la société peuvent se mettre en mouvement à un moment donné. Parce que c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Ce n'est pas de se retrouver entre militants dans des réunions internationales, même si c'est utile. Mais
est-ce qu'on peut dire qu'il y a en ce moment, enfin, que la crise imprime finalement ou implique dans les couches, dans les strates des mouvements sociaux, une décomposition, recomposition un petit peu de ces mouvements et des relations entre les uns avec les autres, ou que ce soit local ou que ce soit aussi dans les accords nationaux qu'on peut avoir et internationaux. Est-ce qu'on peut dire ça en ce moment? C'est-à-dire qu'est-ce que la crise finalement, c'est un espèce d'électrochoc qui fait qu'il y a dans le temps des décompositions, recompositions. On est dans cette phase-là, dans des choses comme ça où on est encore très stable et c'est des accords d'organisation, on va dire, établis et sur leur fondement qui se font.
Je ne suis pas de ce point de vue-là très optimiste. Je ne crois pas que la crise soit un catalyseur, justement. Au contraire, il me semble qu'il y a un recul. Ouais. Je pense qu'en particulier, ce qu'on voit apparaître quand même, d'abord un front syndical qui est désuni, qui n'est absolument pas uni, déjà au niveau même intersyndical.
Là, tu parles de la situation française.
Française, oui. Je parle en France, là. Oui. Donc un front syndical qui est désuni, et dans cette désunion, un front syndical qui s'est isolé par rapport à d'autres forces. Mmh. Bon, on en parlera tout à l'heure sans doute. Nous avions un forum social européen dans lequel ATTAC a participé, bien sûr, dans la construction. Il y avait une présence très forte des syndicats européens, de tous les syndicats de différents pays. Ce forum social européen, non seulement c'est plus qu'une crise, ce qu'il subit n'existe plus. Il n'existe plus. C'est le seul forum régional dans le monde qui n'existe plus. Nous avons une crise spécifique. Et pourquoi n'existe-t-il plus ? Il y a des tas de raisons. Mais juste, je peux dire, les syndicats se sont désengagés du forum social européen pour se recentrer sur des logiques beaucoup plus de type syndical. Ouais. Et donc ça, pour moi, c'est un recul, évidemment.
Et est-ce que l'intensité de la crise dans les pays change les choses ? C'est-à-dire, est-ce que si on va voir en Grèce ou au Portugal aujourd'hui, Est-ce que ces phénomènes de décomposition, recomposition et de cristallisation, on va dire, de coagulation, je ne sais pas comment on peut appeler ça, des mouvements vers un objectif commun a lieu ou pas encore?
Je crois que c'est que la crise, y compris et malheureusement dans certains mouvements sociaux, reproduit ce qui se passe au niveau de l'Europe, c'est-à-dire une espèce de nationalisme du mouvement, le mouvement qui croit se renforcer en se refermant sur lui-même. Je prends un exemple. Il y a eu les 10 dernières années, je pense, des avancées importantes dans le lien entre écologie et société, entre les mouvements sociaux et les mouvements écologistes. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui nous soyons dans un moment important de convergence des mouvements sociaux, des mouvements écologistes. Regardons ce qui se passe par rapport au gaz de schiste. La déclaration de la CGT, de la CFDT, favorable, enfin, en tout cas critiquant Hollande d'avoir pris une décision trop rapide concernant les gaz de schiste, implique une confrontation quand même très forte avec des mouvements qui ne sont pas que des mouvements écologistes, d'ailleurs des mouvements de base qui se battent contre les gaz de schiste. Ça, et ça, pourquoi, aussi bien au niveau de la CGT que la CFDT aussi, etc., on défend tout à coup les gaz de schiste, c'est parce que on espère peut-être retrouver par là la croissance perdue. Qui dit croissance, croit-on, dit emploi. Bon, bref, etc., etc. Et là, la crise, loin de favoriser ces convergences-là, elle durcit aussi des oppositions. Alors, en revanche, je pense que peut-être, c'est l'espoir que nous devons avoir, la situation de crise va mettre, c'est ce qu'il faudrait, en mouvement des franges de la société qui n'y sont pas et qui vont transcender toutes ces vieilles oppositions, tout ce campement sur des intérêts très spécifiques. Oui. Et c'est ce qu'ont fait les indignés en Espagne quand même, oui. Qui sont arrivés à faire. Ce que je pense aussi, c'est qu'au Portugal, d'après ce qu'on me dit, les grandes manifestations qu'il y a eu au Portugal, ce n'est pas partie des syndicats, ce n'est pas partie des grandes associations, c'est le mouvement Occupy. Qui a lancé ces grandes manifestations, parce que chacun est sur son territoire. Bon, d'ailleurs, à TAC, il faut qu'on fasse attention, justement, de ne pas rester sur notre...
J'ai une dernière question, en fait, par rapport aux propos de François Hollande, par rapport aux écologistes au gouvernement. Il se peut qu'ils partent. Est-ce que aussi la force de représentation des écologistes, en fait, au sein du gouvernement n'a pas été cassée et rompue par, justement, ce compromis qui a été fait avec le PS et le gouvernement en place?
Bon, ça c'est. Je ne vais pas discuter de la stratégie d'Europe Écologie. Les auditeurs sans doute la connaissent. Il y a un choix qui a été fait au niveau d'Europe Écologie, qui était le choix de participer au gouvernement pour avoir un groupe à l'Assemblée nationale, dans la mesure où il n'y a pas de proportionnel en France, que la seule solution pour eux, pensait-il, d'avoir un groupe véritablement à l'Assemblée nationale, c'était de passer un accord avec le PS. Bon, voilà pourquoi moi je suis, et pas seulement pour Europe Écologie Les Verts, je suis vraiment pour qu'il y ait une proportionnelle qui s'installe en France, parce que ça évitera ces accords-là, justement, qui sont des accords de marchandage, il faut appeler les choses comme... Et alors après, moi je ne suis pas dans la peau des écologistes, mais je pense quand même qu'il y a des lignes rouges, ou peut-être même qu'elles sont déjà franchies, au-delà desquelles ce n'est pas possible, ce ne sera peut-être pas possible de continuer.
La convergence ne peut pas se faire par le politique ? Est-ce que vous pensez que la convergence ne peut pas être tout simplement politique ?
Oui.
Pourquoi pas, si ?
Okay.
Bien sûr.
Non, mais je pense qu'il peut y avoir des grandes coalitions politiques à des moments donnés. Il y en a eu, il y en a. Et c'est nécessaire aussi.
Très bien. C'était ma question.
Alors j'aurais peut-être qu'on parle maintenant on a parlé de l'échelle européenne, de la problématique spécifique qu'on doit régler entre les différents pays européens au niveau des convergences européennes et aussi au niveau des convergences locales et nationales. On a parlé de la caractéristique des mouvements sociaux en ce moment. Peut-être que maintenant il faut parler comment nous attaquons avec nos partenaires. Quelle réponse donc on propose pour aller appuyer cette convergence, la mettre en œuvre, la dynamiser, l'organiser et faire en sorte qu'on ne s'essouffle pas trop vite et en même temps qu'on ait une énergie pour le court terme suffisante pour apporter des réponses. Alors, quelles sont les bases fondatrices finalement d'un rapport de force en faveur des peuples? Quelle revendication unifiante on peut mettre à jour entre nous? Quelle méthodologie pour y arriver? Alors, Il y avait ce week-end, du 8 au 11 novembre à Florence, hein, organisé par les partenaires italiens, 10 ans après le Forum social mondial, un grand sommet qui était le rendez-vous, on va dire, des mouvements politiques syndicaux, associatifs, des ONG.
Seulement mouvements syndicaux et sociaux. Il n'y avait pas les mouvements politiques à Florence.
Oui, d'accord. Et donc, avec, si je ne me trompe, il y avait comme objectif, hein, c'était essayer de voir quelle réponse commune et partagée entre nous on peut donner à la crise et aux politiques menées aujourd'hui en Europe. Et enfin, c'était quelles alliances créer, avec quel agenda à moyen terme. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Geneviève, aujourd'hui de ce rendez-vous-là et de la suite pour l'année 2013 notamment?
Alors Florence est restée, je crois, dans les têtes un grand moment du mouvement altermondialiste européen, en tout cas, et international, suite à la manifestation contre la guerre en Irak, hein, c'était il y a 10 ans, qui a été, je crois, une des plus grandes manifestations européennes, hein, avec des délégations mondiales contre la guerre. C'était à l'occasion du Forum social européen, justement, le premier, qui était à Florence, qui était véritablement une réussite et qui pouvait donner de l'espoir sur la construction véritablement d'une conscience européenne et d'un mouvement social européen. Mmh.
Donc il y avait une symbolique là de revenir 10 ans après.
Voilà. Alors la symbolique est venue du fait que la symbolique nécessaire de l'écroulement du Forum social européen. Et alors pourquoi Florence? Bon, c'était utiliser effectivement ce symbole, et puis aussi parce que en Italie quand même, l'Italie est particulièrement menacée par la crise, et il y a des convergences aussi de mouvements en Italie qui sont assez intéressantes, avec y compris des victoires. Parce que ce dont nous souffrons le plus, c'est de ne pas avoir de victoire, d'être toujours dans la défensive, bon, etc. En particulier, je pense à la question de l'eau en Italie. Mmh. Et donc, il y a eu une effervescence assez importante en Italie, et du coup, ça a donné Florence plus 10. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a eu à peu près 4000 participants, ce qui peut paraître très peu par rapport aux 100 000 ou 150 000 qu'il y avait à Florence il y a 10 ans. Ce n'était pas du tout la même chose. Là, cette rencontre à Florence, c'était uniquement une rencontre militante des réseaux européens, des réseaux militants européens qui avaient décidé de se retrouver à Florence. Ce n'était pas du tout une grande manifestation, y compris festive, culturelle, pas du tout. Donc c'était, d'après ce que nous savons aujourd'hui, donc il y avait 300 organisations qui étaient représentées à Florence, des organisations de base, hein, il n'y a pas les partis politiques, hein, dans ce type de processus, donc 300 organisations de base de 28 pays.
Ce qui est énorme.
Enfin, ce qui est énorme. Donc de ce point de vue-là, c'est un succès. Bon, il faut attendre, hein, de voir très concrètement comment ceci va se décliner dans les différents pays, mais il y a plusieurs décisions qui ont été prises quand même au niveau collectif à Florence. Donc c'est plutôt encourageant, hein, c'est plutôt encourageant. Ce que je voudrais dire, c'est que par rapport à ce que nous avons vécu pour le Forum social européen, là, il y a eu un effort énorme à Florence de toucher des mouvements de base, des associations qui n'étaient pas inclus dans le processus du Forum social européen. Ce processus du Forum social européen qui était très fondé quand même sur l'alliance syndicats et grandes organisations de solidarité. Et là, il y a eu beaucoup plus à Florence normalement. Par exemple, je pense à un réseau auquel j'appartiens qui s'appelle le réseau européen contre la financiarisation de la nature. Et là, ils étaient très présents autour des questions de l'eau, de l'extractivisme. Donc, voilà. Il y a eu aussi une réunion à Florence, et ça, il faut le noter, c'est très important, contre les grands projets inutiles imposés, avec des représentants de Notre-Dame-des-Landes, des représentants de l'autoroute qui va faire Lyon-Turin, qui pose également d'autres problèmes extrêmement forts, tout ce qui est de l'ordre de LGV, des grands barrages, bon bref. Donc tout ceci a été en même temps un axe très important à Florence. Donc on voit ainsi se construire ce qu'on peut appeler des convergences, mais qui ne sont pas simplement des ajouts de mouvements les uns à côté des autres, parce que ça, c'est comment dire, c'est un peu le saupoudrage, hein, mais qui tente de se construire autour de choses communes et à partir d'un vécu des populations communes, arriver à construire effectivement ces alliances. Mais pas construire l'alliance et après aller voir sur le terrain ce qui se passe. Hein, c'est souvent, les convergences ont souvent été conçues comme ça. On s'allie au sommet entre grands, hein, on est dans les 30 autour d'une table, on va avoir une alliance extraordinaire, une convergence extraordinaire avec tout ce qu'on veut de mouvements sociaux, partis politiques, et puis sur le terrain, il n'y a rien.
Chacun rentre chez soi une fois le sommet terminé et il ne se passe rien.
Là, l'idée, c'est de construire des convergences à partir de la base. Bon, c'est une autre culture politique. C'est ce que nous avons toujours dit dans le mouvement altermondialiste. L'ambition, hein, c'était bien de faire émerger une autre culture politique qui n'annule pas l'autre culture politique, mais qui nécessairement doit se faire entendre et sûrement est complémentaire.
On lance une pause musicale ?
Exactement, une petite pause musicale, parce qu'il est déjà, il est déjà 18h moins 10. Et on revient donc après ça pour vous dire le mot de la fin.
Hein, et dis-moi, on n'a pas dit les dates.
On les dit tout de suite après.
From listening to records, I just knew what to do. I mainly taught myself. And, you know, I did pretty well, except there were a few mistakes but, that I made that I have just recently cleared up. Continue to be able to express myself as best as I can in history. You know, I feel like I have a lot of work to do still. You know, I'm a student of the drums. And I'm also a teacher of the drums too.
Quelle convergence en Europe pour avec quels mouvements sociaux, pour quel projet, quelle reconstruction. Donc on était en train de faire une petite synthèse du sommet qui a lieu ce week-end, le week-end dernier à Florence, qui était une rencontre des mouvements sociaux européens, avec la participation de plus de 300 mouvements, je crois, et 4000 personnes. Et donc avec une feuille de route, je crois, qui a été élaborée pour les mois qui viennent. Je crois que Geneviève, tu as des dates à nous donner.
Bon, je donne quelques dates qui ont émergé. Tout le monde sait que la classe de Davos se réunit à Davos, justement en Suisse, du 23 au 27 janvier. Le Forum social mondial s'est toujours construit par rapport, jusqu'ici en tout cas, par rapport à ce Forum de Davos. Et donc à Florence, a été décidé dans cette période, de faire des actions au niveau européen en ciblant les banques et tout ce qui est du domaine de ce que nous appelons la privatisation et financiarisation de la nature. Ensuite, le 23 mars, il doit y avoir une manifestation européenne contre l'austérité. Donc, manifestation européenne contre l'austérité, mais je voudrais dire tout de suite, et pour nous, ATTAC, c'est extrêmement important aussi, autour du 20 mars, du 23 mars, il y a le Forum social mondial à Tunis, où là, justement, en tout cas, nous, Français, nous serons, j'espère, très présents à Tunis, parce que nous avons une communauté tunisienne extrêmement importante en France, maghrébine en général, donc c'est important d'être à Tunis, et en particulier d'aller porter ensemble à Tunis aussi la voix de quelle Europe nous voulons, et quelle Europe par rapport aux autres pays, parce qu'ils auront des choses à nous dire aussi, et quel modèle de développement, bon, oui, etc.
Clairement, la convergence européenne doit se faire aussi en partenariat, au moins avec un échange avec le reste du monde, pour laisser personne au bord de la route.
Absolument.
Et avoir une coopération finalement à la fois économique, politique, oui, avec l'ensemble de nos partenaires mondiaux.
Bon, et enfin, le 7 juin à Athènes, rendez-vous donc tous à Athènes le 7 juin. Ça s'appelle un alter sommet, un alter summit. Ce sera au moment d'un sommet européen organisé par les sommets des chefs d'État européens. Il y aura un alter summit à Athènes. Ce sera le 7 juin, qui prendra des formes extrêmement diverses, et là qui doit être vraiment un très grand moment fort au niveau européen pour faire entendre la voix des peuples.
Voilà, donc ça, c'est des choses vraiment importantes qu'il faut retenir
dans l'agenda sur les 6 mois, 8 mois qui viennent. Peut-être en conclusion, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a rarement eu une actualité si dense, hein, au niveau de l'actualité des mouvements sociaux, des dynamiques d'action locale, aussi variées que Notre-Dame-des-Landes, que la lutte contre l'austérité. On va y venir dans l'agenda local. Mais aussi avec des processus de convergence qui sont à la fois interdisciplinaires, inter-réseaux, qui sont à la fois aussi inter-organisationnels, on voit ça, et aussi au niveau national, mais aussi ça commence à prendre corps au niveau européen, comme on l'a vu à Florence ce week-end. Donc ça, c'est extrêmement important, je trouve. C'est aussi porteur d'espoir, on va dire. Hein. Je pense qu'il est important aujourd'hui de mentionner quand même le besoin et l'intérêt particulier en ce moment pour les citoyens de reprendre en main, de prendre leur part de participation à la vie politique, participation à la vie dans les associations, dans les collectifs, etc. Et pour construire un futur commun conforme à nos aspirations, quoi. Peut-être on peut clôturer avec l'agenda militant. Je voudrais remercier tout d'abord Geneviève Azam qui est avec nous ce soir.
Geneviève.
Peut-être rappeler les publications. Attends. En 2007, construire un monde écologique et solidaire. En 2010, le temps du monde fini vers l'après-capitalisme chez Les Liens qui Libèrent. Et puis en 2012, c'était La nature n'a pas de prix. Les méprises de l'économie verte, toujours chez Les Liens qui Libèrent.
Oui, là, je ne suis pas seul quand même. Je suis avec Maxime Combes, qui est un complice d'attaque, et Christophe Bonneuil, qui est aussi un complice d'attaque.
D'accord. Peut-être quelques dates sur l'agenda militant. Il nous reste 2 minutes. Demain, il y a le film Les Sentiers de l'Utopie passent par Toulouse. C'est à Utopia, à 20h30.
C'est excellent, ainsi que le livre.
Il y a un café citoyen sur la démocratie au bar à chocolat rue des Champs-Élysées. Le 14, il y a la grève européenne à ne pas rater, évidemment, contre l'austérité. Donc là, c'est une grève européenne unifiée, hein, avec de nombreux syndicats, partis politiques, associations, collectifs. Ah. Rendez-vous à 14h place du Capitole et place Arnaud-Bernard pour le défilé. Le 14 au soir également, il y a un ciné-débat sur les monnaies complémentaires et la finance solidaire. Qu'est-ce que je vais citer? Le 17, le vendredi soir, tous à Notre-Dame-des-Landes. Donc il y a un bus qui part vendredi 16 à 23h. Alors le collectif, c'est collectif.nddl31@gmail.com ou par téléphone au 05 61 32 81 15.
Jean-Michel, je vais donner un numéro de téléphone à toutes les personnes qui veulent aller à Notre-Dame-des-Landes.
Vas-y.
Parce que donc, tous à Notre-Dame-des-Landes, hein, vendredi 16 novembre à 23h, il y a un bus qui part enfin. Le numéro, c'est le 06 78 82 10 34. Voilà, donc c'est 20 € le tarif aller-retour, ou 5 € pour les étudiants, les retraités, les chômeurs. Donc il n'y a pas d'excuse, il faut y aller. Montez tous ce week-end à Notre-Dame pour défendre ce terrain, et ouais, surtout montrer qu'on n'est pas d'accord avec les projets inutiles.
Une
dernière annonce pour conclure.
Je pense qu'il y a aussi une réunion à la salle du Sénéchal qui est organisée par le monde diplomatique, les amis du monde diplomatique et ATTAC.
Le 22, je l'ai. Le 22 novembre à 20h30, conférence débat bien commun, bien public, des alternatives à la crise avec Geneviève Azam, Michel Metz et Théophile Yonga, c'est ça ?
C'est ça.
À la salle du Sénéchal, au 17 rue Rémusat, en effet. C'est dans le cadre de la SSI, je crois.
Oui.
Non, de la semaine de la solidarité internationale.
Nickel, on va rendre l'antenne car il y a des amis qui arrivent.
Donc on se retrouve le 10 décembre, le mois prochain, pour une émission sur l'énergie.
Et
merci.
D'ici là, il y aura une réminiscence donc tous les lundis à 17h sur des actions et des combats militants dans la lignée de ce qu'on vient de dire pendant une heure.
Merci
à tous, bonne soirée.
Au revoir.
Bonne semaine. Thank you.
Thank you.